Résilience, Maxime Maury, Jacques Lavergne, bonjour. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, Maxime Maury et moi-même vous proposons un numéro spécial de résilience entièrement consacré au pétrole. Et pour réaliser cette émission, nous avons invité Mathieu Ozano. Une émission réalisée bien sûr par vidéoconférence. Alors d'avance, pardon si le son n'est pas aussi limpide qu'en studio et si les échanges parfois peuvent manquer de fluidité. Bonne écoute, Maxime Maury, Mathieu Ozano, Jacques Lavergne, le pétrole. Bonjour à tous, eh bien c'est Résilience, traditionnellement avec Jacques Lavergne et Maxime Maury, nous sommes tous à distance, bien sûr les uns des autres, et nous avons le plaisir, et on le remercie chaleureusement de prendre du temps, de recevoir Mathieu Ozano. Alors Mathieu Ozano est journaliste, on va dire ancien journaliste, il précisera tout à l'heure, d'investigation, vous avez traité des sujets à la limite de l'écologie, de l'économie, et peut-être les deux. Et puis, vous êtes le directeur du Shift Project. Vous nous direz tout à l'heure quelle est exactement cette entité, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle vise. Et surtout, vous êtes un spécialiste, alors je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais un spécialiste du pétrole, puisque vous avez écrit un livre qui a été publié à la Découverte Poche, qui s'appelle « Or noir, la grande histoire du pétrole ». C'est un livre épais, qui fait plus de 700 pages, que j'ai dévoré, je le dis, je l'ai lu comme un polar, je disais 50 pages par jour. C'est une fresque historique, économique, politique, financière, qui retrace les heures de gloire et les heures sombres de l'industrie pétrolière. On y voit combien le pétrole a façonné le monde et nos civilisations, et l'on prend conscience que lorsqu'on considère la marche du monde avec ce décodeur qu'est le pétrole, beaucoup d'événements prennent un sens bien différent de celui qui apparaissait de prime abord. Et moi, je me dis que c'est un livre salutaire et qui aurait eu sa place dans une matière qui était enseignée autrefois et qui a disparu, c'est l'instruction civique, parce que véritablement, on y apprend beaucoup de choses sur la marche de notre planète et sur ses dirigeants. Mathieu Ozano, le Shift Project, ou à moins que vous vouliez préciser exactement votre parcours professionnel.
Oui, je veux bien, merci beaucoup d'abord de m'accueillir. Mais vous avez dit l'essentiel. Je suis au départ journaliste spécialiste d'économie et en même temps de cœur écologiste, et ne me résolvant pas à ce qu'il y ait une coupure entre les deux. Et donc, en travaillant sur le lien entre économie et écologie, on tombe sur un truc qui s'appelle l'énergie. Et en plein milieu de l'énergie, il y a un gros morceau qui s'appelle le pétrole. Donc, voilà, tout ça m'a conduit l'histoire contemporaine, la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak en 2003. Ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai fait mon opinion sur le monde contemporain et qui m'ont amené m'intéresser de plus en plus étroitement aux questions de transition énergétique, climat d'un côté, et enjeux, disons, géostratégiques liés à l'accès au pétrole de l'autre.
Un mot sur le Shift Project, dont vous êtes le directeur.
Oui, le Shift Project, c'est un peu, pour moi, c'est un prolongement de cette activité, de cet intérêt. Le Shift, c'est une association d'intérêt général qui a été fondée par Jean-Marc Jancovici, qui est bien connu des gens qui s'intéressent aux problématiques de transition énergétique. Et c'est un groupe de réflexion, un think tank, comme on ne dit pas en bon français, qui a vocation à pousser à la roue de la transition énergétique en documentant des aspects décisifs et délicats de cette transition. Donc on les documente, on fait des rapports, on consulte, on fait des rapports, et une fois que nos rapports nous paraissent défendables, on les défend auprès des décideurs, ce qu'il est convenu d'appeler les décideurs économiques, sociaux et les leaders d'opinion également, les journalistes.
Nos auditeurs ne seront pas surpris de cette présentation, puisque nous relayons régulièrement les travaux du Shift Project et puis aussi ceux de les interventions de Jean-Marc Jancovici. qui en partie, pour Maxime Maury et moi-même, a été notre formateur et notre introducteur dans ces disciplines. Alors, revenons au pétrole, les hommes recherchent toujours la puissance c'est l'énergie c'est la puissance. Quelle est la place du pétrole parmi les énergies?
C'est la première. C'est la première en quantité et en qualité. Le pétrole, bien que l'on ait signé le premier international qui induit une sortie du pétrole en 1997 à Kyoto, bien qu'il y ait eu depuis les accords de Paris en 2015, le pétrole demeure la première source d'énergie à laquelle l'humanité fait appel pour pour une infinité de choses. Bien sûr, les transports, mais l'agriculture, mais la production industrielle. En fait, de près ou de loin, il n'y a pas une activité technique qui n'ait pas recours peu ou prou directement ou indirectement au pétrole. Donc, en quantité, ça demeure la première source d'énergie. À peu près un tiers de l'énergie qu'on consomme dans le monde, elle est fournie par le pétrole. Et si l'on regarde toutes les énergies fossiles, en plus du pétrole, charbon et gaz naturel, le gaz naturel étant le petit frère du pétrole, puisque c'est un hydrocarbure plus léger, mais c'est la même chose finalement, ce sont 80% des sources d'énergie auxquelles on a recours aujourd'hui, nous l'humanité, qui sont toujours ces énergies carbonées, fossiles et tarissables. Et donc c'est en quantité la première source d'énergie, mais aussi en qualité, et ceci explique cela, puisque si l'on regarde ses propriétés physiques, le pétrole était la meilleure source d'énergie abondante et bon marché que l'on avait à notre disposition lorsqu'a commencé à se développer les activités techniques. On a d'abord vu l'intérêt du charbon à partir des années 20, 1820, 1830, massivement en Grande-Bretagne, mais on s'est très vite aperçu des années 1860 que le pétrole offrait des propriétés physiques. C'est là le lien pour moi fondamental avec l'écologie, avec les problématiques d'écologie politique. Pour des raisons purement physiques, le pétrole s'est imposé comme la meilleure source d'énergie à notre disposition. La plus simple, la plus polymorphe, la plus polyvalente, la plus commode, en un mot.
Alors l'histoire, elle a commencé quand? Parce qu'il a bien fallu que quelqu'un découvre le pétrole, perce la croûte terrestre, il a vu quelque chose jaillir, je simplifie vraisemblablement, mais je crois qu'au départ, c'était vraiment, ça a démarré de façon très embryonnaire, il y a une espèce de liquide qui est sorti. Comment ça s'est passé? Comment ça a démarré?
Alors en fait, cette histoire, elle remonte très très loin dans le temps, hein, puisqu'il y a des sources naturelles de bitume ou de gaz naturel ou de naphtha qui sortent du sol, qui sont disponibles depuis les temps bibliques, littéralement, puisque par exemple la tour de Babel, la Bible nous dit que ce qu'on a utilisé comme mortier pour construire la tour de Babel, c'est du bitume. À l'époque en Irak, il y avait déjà des sources naturelles de bitume. Mais l'exploitation, disons, industrielle du pétrole, elle remonte, comme je disais, aux années 1850, 1860. Il y a quelques prémices avant, dès le XVIIIe siècle, hein, on utilise du pétrole lampant pour faire de la lumière, ou on utilise du pétrole comme lubrifiant ou comme solvant. Mais l'exploitation prend véritablement son essor aux États-Unis et très rapidement également en Russie dans les années 1860. D'abord comme source de lumière pour les lampes à pétrole. Très massivement, c'est là que ça dit bien toutes les qualités, la diversité des qualités du pétrole comme lubrifiant et comme solvant pour des machines qui étaient à l'époque des machines encore à vapeur. Le pétrole est la première source de lubrifiant abondant. Avant, on utilisait des graisses animales ou végétales qui étaient limitées en termes de volume. Et puis, assez rapidement, dès la fin du 19e siècle, on s'aperçoit des propriétés énergétiques. On tente, en tout cas, on les connaissait, mais on tente d'asservir ces propriétés énergétiques avec le développement, alors d'abord de chaudières au fioul, de chaudière à essence, où en fait on utilise le même principe de machine à vapeur, mais simplement au lieu d'utiliser du charbon pour chauffer l'eau, eh bien, on utilise du pétrole. Et puis très rapidement, on utilise le concept des moteurs à combustion interne qui sont antérieurs, dont l'idée est bien antérieure au pétrole, à l'exploitation industrielle du pétrole, mais on trouve le moyen, les Daimler, enfin, les gens qui ont, notamment les ingénieurs allemands, qui ont développé le moteur à combustion interne, permettent dès l'aube du XXe siècle de donner au pétrole son usage roi, qui est un usage énergétique.
Alors là, tout commence et tout démarre. On a d'immenses compagnies qui se créent essentiellement américaines avec Rockefeller, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Et on se rend compte que ce que le pétrole a apporté à l'humanité va quand même coûter assez cher à l'humanité, finalement.
C'est la vieille histoire, c'est une vieille histoire, c'est la vieille histoire chinoise du yin et du yang, hein. Toute source de puissance, elle a son côté obscur et son côté clair. Donc la première source, la source la plus profuse de puissance mise au jour grâce au pétrole, eh bien, elle a une infinité de facettes brillantes. Et une infinité de facettes beaucoup plus sombres, ce qui nous permet d'être la génération la plus qui jouissant du confort matériel le plus incroyable, le plus inouï de toute l'histoire de l'humanité, et d'être aussi la plus nombreuse, eh bien c'est pour beaucoup dû au fait qu'on bénéficie d'une abondance énergétique qui est premièrement issu du pétrole, donc ça c'est le côté clair. Et puis on voit immédiatement que il y a tout un tas de faces sombres à cette histoire, d'autant plus hypertrophiée que cette puissance est généreuse. Donc on s'est beaucoup battu au XXe siècle pour pour le pétrole, même au début du XXIe siècle qui est censé être celui de la sortie du pétrole. On peut remarquer que la première guerre qui a ouvert le XXIe siècle, c'est sans doute une guerre pour le pétrole, l'invasion de l'Irak en 2003. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que son but stratégique ultime et peut-être fondamental, c'était de permettre à Oncle Sam, de permettre aux États-Unis de planter une bonne fois pour toutes le drapeau, la bannière étoilée dans le golfe Persique qui recèle grosso modo un quart des réserves de pétrole conventionnel encore disponibles sur Terre. Donc, par définition, ce golfe Persique est le cœur de la puissance économique mondiale,
On trouve du
la source
pétrole.
primaire de la puissance.
On trouve du pétrole ou cela ailleurs. Il n'y a pas que le golfe Persique.
Alors, il y en a à peu près dans toutes les plaines sédimentaires, pas dans toutes, mais dans bon nombre de plaines sédimentaires autour de la planète. Donc, je disais au XXe siècle, l'industrie pétrolière a pris son essor aux États-Unis et en Russie, en URSS plus exactement, puisqu'on a développé ça en Azerbaïdjan et puis dans toute la vallée de la Volga, puis en Sibérie occidentale. Aux États-Unis, les États-Unis ont été. C'est pas pour rien que c'est la première puissance du XXe siècle, c'est qu'ils ont très longtemps été les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Et les Américains avaient la chance d'avoir du pétrole dans beaucoup d'endroits de leur territoire, à l'ouest et à l'est des Rocheuses. Donc, historiquement, d'abord au pied des Appalaches. C'est là que Rockefeller a fait fortune, notamment. Puis au Texas, en Oklahoma, puis de l'autre côté des Rocheuses en Californie. Il y a du pétrole dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Et donc, pour résumer, moi, je trouve ça absolument symptomatique de la lecture que j'ai de cette histoire de la puissance liée aux sources d'énergie, de constater que les deux grandes puissances du XXe siècle ont été les deux premiers longtemps producteurs de pétrole, les États-Unis et l'URSS.
Alors, quand on lit
Mais
votre livre,
il y a du pétrole dans beaucoup d'endroits sur Terre.
on a quand même de quoi être un peu inquiet parce qu'on se rend compte que les dirigeants politiques et le pétrole, c'est à peu près la même chose. On passe d'un univers à un autre, on se soutient, on intrigue, il y a des corruptions, il y a de la violence, il y a le pétrole explique à peu près toute la marche du monde depuis le début du XXe siècle.
Les turpitudes de l'humanité, elle parlait de corruption, de népotisme, etc., sont immémorielles. Simplement, elles sont
Oui,
rendues
ça.
extrêmes par le fait que le pétrole est une source de puissance extrême. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'expression de cette puissance, pour le meilleur et pour le pire, est extrême dans le cas du pétrole. Rockefeller demeure sans doute encore aujourd'hui l'homme le plus riche de tous les temps. La puissance géopolitique d'un pays arriéré, à la culture arriérée comme l'Arabie Saoudite, cette puissance ne serait pas ce qu'elle est si les Saoudiens n'avaient pas la chance, si Allah ne leur avait pas confié pratiquement un dixième des réserves mondiales de pétrole. Voilà, il y a une relation compacte, il y a une intrication entre la volonté de puissance des dirigeants politiques économiques et leur capacité à mettre la main, ou leur incapacité à mettre la main sur des ressources adéquates en pétrole.
Il n'y a pas beaucoup de morale dans l'histoire du pétrole quand même. C'est la puissance pour la puissance, pour dominer les autres et évidemment faire le plus gros pactole possible. Pétrole et économie, financiarisation de l'économie, etc.
Oui, mais il n'y a pas toujours beaucoup de morale dans l'histoire de l'humanité de manière générale.
Oui,
Encore une
ça.
fois, cette histoire est extrême. Est rendu extrême et poussé à l'extrême. Moi, c'est une question qui est faussement naïve que vous posez, mais que je me suis posée aussi. Moi, je suis né dans les années 70, donc je suis largement, bien qu'étant français, de culture américaine, parce que j'ai grandi avec la télé, j'ai grandi avec Spielberg, avec Dallas, tout ça. Le phénomène Bush, par exemple, Bush, père et fils, le fait que l'industrie pétrolière est quelque part mis la main sur la Maison-Blanche pendant de très nombreuses années, avec des turpitudes des tragédies pures, comme l'invasion de l'Irak en 2003 ou comme la guerre du Golfe en 91. Pour moi, qui était adolescent, à peine le mur de Berlin s'est effondré, que les gentils, ceux qu'on identifie à ce moment-là comme les gentils, les Américains, les leaders du monde libre, comme on disait, faisaient la guerre à leur ancien allié, Saddam Hussein, et on comprenait vite que l'histoire était beaucoup plus tordue, tortueuse, que ce qu'on nous racontait précisément dans une certaine forme de propagande à l'américaine.
Alors pendant longtemps,
Mais
ça
quand
y est.
on comprend, quand on lit, quand on, quand, enfin, cette espèce de cette espèce de maelstrom un peu d'intention. Enfin, je pense qu'on ne comprend pas grand-chose. Bon, en tout cas, je vais le dire plutôt comme ça. Je pense que cette notion d'accès à l'énergie pour effectuer une puissance politique, économique ou militaire est une clé qui se permet de simplifier, de rendre explicite beaucoup d'intentions qui sont sinon incompréhensibles. À ce titre, voilà, pourquoi est-ce que dans les turpitudes politiques françaises qui ont trait à la France-Afrique, qui ont trait au financement cryptique des partis politiques, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on retrouve comme source de financement occulte du RPR ou du Parti socialiste, si on remonte à l'affaire Elf, des potentats du pétrole? Eh bien parce que ce sont ces gens, parce que le pétrole est la source, est une source incomparable de profit, donc à la fois pour le meilleur et pour le pire, de puissance. Donc, d'où l'importance de M. Bongo, d'où l'importance de M. Sassou Nguesso dans un certain nombre de chemins cryptiques de la puissance politique en France.
Alors, il y a eu
D'où faire notre ex-président Sarkozy aujourd'hui. Je pense que la Libye, par exemple, ce qui s'est passé en Libye, la Libye est quelque part notre petit Irak.
Oui, c'est pas très glorieux, mais bon. Alors, il y a
Certes pas.
un long fleuve de pétrole tranquille, finalement. Et puis, il y a eu les chocs pétroliers, les fameux chocs pétroliers. Il y en a un premier, un deuxième, un troisième. Qu'est-ce que c'est, ces chocs pétroliers? De quoi ça venait et qu'est-ce qui les a provoqués? Et qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le monde?
Je crois que, alors donc, rappelons rapidement, hein, il y a eu deux, historiquement, hein, au moins deux chocs pétroliers qui ont leur place, qui ont une place d'honneur dans les livres d'histoire économique, hein, puisqu'ils ont été un peu une mi-temps dans l'histoire économique, 73 et 79. D'abord, en regardant les conséquences, 73 et 79, c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est la fin de la grande période de croissance post-Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'Occident, pour les vieilles économies occidentales comme la France, c'est l'apparition du chômage de masse, c'est l'apparition des phénomènes d'endettement public de plus en plus massif, etc. Donc c'est vraiment un moment de bascule. C'est la fin de la croissance facile, quelque part. C'est la fin d'une période d'expansion presque irrésistible et la rentrée dans quelque chose. Ce quelque chose étant pour moi, à mes yeux, le début de la fin d'un régime de croissance précisément tributaire d'une abondance énergétique. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que, alors revenons peut-être essentiellement sur 73, donc le premier choc pétrolier. C'est interprété. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe en surface? C'est la guerre du Yom Kippour. Donc, qui oppose Israël à ses voisins, arabes. Et il y a un embargo qui est imposé par un certain nombre de grands pays producteurs pétroliers arabes, derrière l'Arabie saoudite et d'autres. Et ça a induit un choc économique avec une poussée inflationniste brutale, qui va donner lieu à du chômage de masse en particulier et à tous les déboires que je décris qui ont succédé. Mais cette histoire est très mal, à mes yeux, hein, très mal comprise. Et enfin, dans l'histoire du pétrole telle que je l'ai racontée, c'est peut-être l'épisode dont je suis le plus satisfait. Non pas parce que j'ai découvert quelque chose, mais parce que j'ai collationné, j'ai rassemblé un certain nombre d'indices qui montrent que 73, qui est interprété comme une crise fondamentalement politique, strictement politique, opposant des volontés humaines, a derrière un soubassement des fondations qui sont d'ordre écologique. Et ça, pour moi, comme militant, en tout cas passionné des enjeux d'écologie politique, c'est extrêmement fertile. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il y a une crise écologique derrière 73 ou avant 73? C'est parce que, en tout cas, c'est la thèse que je défends dans le bouquin, on peut voir que 73 est très vraisemblablement une conséquence directe de l'amorce d'un phénomène écologique qui est le déclin de la production américaine de pétrole à partir de 1970. Je n'ai peut-être pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus, mais on voit une chaîne logique à la fois économique, politique, entre l'amorce d'un déclin de la production massive de pétrole jusque-là, à partir de 1970, pour des raisons strictement écologiques, géologiques. C'est notamment le début du déclin du Texas et de l'Oklahoma, qui sont vraiment le centre à ce moment-là de l'industrie pétrolière. Et notamment, on voit derrière ce phénomène qui a été subi par les États-Unis, une géostratégie qui est déployée par Washington pour notamment dire aux responsables de l'OPEP, dont les deux principaux sont des alliés très proches des États-Unis, le Shah d'Iran et le roi d'Arabie saoudite, de leur dire, nous, on ne serait pas contre une augmentation des cours du baril. Ce qui est un renversement, si vous voulez, de l'interprétation en surface qu'on a de ce phénomène, qui est en gros le fait de dire, bon, 73, c'est un caprice, c'est un caprice de mauvais perdant. Voilà, Israël remporte la guerre du Yom Kippour et des potentats pétroliers richissimes disent, bien fait pour vous, ceux qui soutenaient Israël, on vous colle un embargo. Ce n'est pas du tout ça qui se passe, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment une volonté, à partir de 70, de la part de la diplomatie américaine du pétrole, qui est extrêmement sophistiquée, de susurrer à l'oreille de ses meilleurs alliés dans le domaine du pétrole, que sont les Saoudiens et les Iraniens, qui dominent de manière écrasante ce que c'est que l'OPEP, ce que c'est que l'Organisation des pays producteurs de pétrole, pour leur dire. On veut bien une augmentation des cours du baril, ce qui va permettre aux pétroliers occidentaux d'aller chercher dès 1974 les premières sources de pétrole difficiles, que sont en particulier les sources de pétrole qu'on connaît mais qui ne sont pas exploitables au niveau du prix du baril pré-73, que sont la mer du Nord, d'une part, et l'Alaska, qui sont les deux premières zones pétrolifères complexes, coûteuses. Que l'on ne pouvait, à l'ouest de Suez, que l'on ne pouvait pas exploiter avant 1973.
Alors,
Il y a un
juste.
smoking gun dans cette histoire, elle est assez vous parlez de roman policier, elle est assez. Il y a un côté comme ça. Je pense qu'il y a une histoire cryptique, un peu moins cryptique peut-être, j'espère, avec le travail que j'ai fait et d'autres que d'autres historiens ont fait. Le cheikh Yamani, vous vous rappelez peut-être de lui, qui était le ministre saoudien du pétrole au moment des chocs pétroliers, a dit que bien des années, a dit, pardon, bien des années plus tard que le Shah d'Iran, qui était le meilleur, le plus proche allié de Washington, lui avait expliqué qu'il avait soutenu une augmentation des cours du baril qui a été décisive en 73.
On va renvoyer à la lecture de votre livre et j'en rappellerai le titre tout à l'heure, mais quelle est la situation aujourd'hui? Parce que nous sommes, on parle du fameux pic pétrolier, du pic du pétrole conventionnel, on parle de la déflation du pétrole. Depuis à peu près 2008, le pétrole conventionnel est en, on va dire, on redescend la pente, puisque ce sont des courbes en cloche, on l'a vu avec Monsieur Midos hein, en 72. Donc nous sommes sur la pente descendante du pétrole conventionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole? Ou est-ce qu'il y aura d'autres pétroles ou des pétroles plus complexes, comme aller chercher, donc beaucoup plus cher et moins efficient certainement sur le plan énergétique?
Alors cette histoire, elle a commencé en 73, précisément. Le début de la fin du pétrole facile, c'est 73, et plus précisément 70, l'amorce du déclin du pétrole conventionnel américain. Il faut dire d'abord que la production globale de pétrole, elle, ne décline pas précisément grâce au développement des alternatives, les pétroles non conventionnels et les agrocarburants. Donc, on parle beaucoup du pétrole de schiste. On a parlé au début des années 2010 beaucoup des sables bitumineux exploités au Canada. Alors, toutes ces formes-là nouvelles permettent de continuer à accroître la production mondiale de carburant liquide. Simplement, vous l'avez pointé, et c'est très important, la production de pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, le pétrole roi, le vrai or noir, qui fournit encore les trois quarts de la production mondiale, a franchi son pic, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, en 2008. Donc là, il y a une évolution qui est absolument inexorable. Je signale, entre parenthèses, que cette date de 2008, pour moi, elle est symptomatique, hein. Je pense qu'on peut tout à fait défendre l'hypothèse que la crise de 2008 a parmi ses causes, des causes puissantes inflationnistes qui ont trait précisément à la fin, du pétrole facile et à l'atteinte d'une limite sur le pétrole conventionnel. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quelque chose, c'est une thèse, du coup.
Est-ce que le Total n'a pas déjà franchi son pic, comme d'ailleurs vous l'avez affirmé, Jean-Marc Jancovici l'a très nettement affirmé, je crois, 2018. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le Total avec le pétrole de Rochemer, je parle sous votre contrôle, hein, on serait déjà en baisse depuis 2018. C'est aussi la tendance que Jean Larrevers a dessinée sur un graphique que j'ai envoyé ce matin à Jacques Lazare. Vous précisiez que les pétroles conventionnels étaient en déclin, je crois que c'est 5% par an depuis 2008, et que l'on a trouvé à partir de 2008, ce sont les pétroles de Rochemer. Mais si j'en crois l'excellent Jean-Marc Jancovici, depuis 2018, maintenant, c'est la production totale qui baisse. Et je voudrais d'ailleurs vous poser la question, est-ce que l'AIE le confirme, ça? Je crois que Jancovici se référait à l'AIE, non?
Oui,
Est-ce
alors
que vraiment la production...
il y a des petites
Je
imprécisions
vous...
là, dans ce que dit Jean-Marc. Petites inexactitudes. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez effectivement le pic du pétrole conventionnel, à nouveau les trois quarts de la production mondiale qui ont franchi un pic en 2008. Simplement, depuis 2008, le déclin de la production effective est très lent. Les 5% que vous évoquiez, c'est ce qu'on appelle le taux de déclin de la production, le taux de déclin naturel de la production. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on n'investissait pas du tout? Pardon, je vais reprendre ce point-là parce que juste là, nous, c'est un truc qu'il faut éclaircir. Parce que, okay.
Oui, mais l'exploration
C'est
est
le taux de
quasiment
déclin de la production.
zéro.
Cette histoire de 5% par an, c'est le taux de déclin de la production existante. C'est-à-dire que, en réalité, plus de la moitié de la production mondiale est mature. Mature, ça veut dire que vous avez passé, vous avez épuisé 50%, la moitié de ce que vous avez comme réserve. Donc ensuite, ça décline. Voilà. Donc il faut remplacer, créer de nouveaux puits simplement pour compenser le déclin de la production existante. Et c'est de plus en plus difficile.
C'est de plus en plus difficile.
Voilà.
Vous avez vous-même une expression extraordinaire dans votre livre, et c'est ça que j'aimerais que vous commentiez. C'est nous faisons une course sur un tapis roulant à contresens, et le tapis roulant est de plus en plus rapide. Hein,
c'est ça,
ça s'appelle la loi des rendements décroissants.
C'est ça. Simplement, là, c'est très difficile de conclure sur le point que vous disiez. Alors, Jean-Marc dit 2018, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, la production 2019…
Oui.
Ouais, mais il faut que je le corrige là-dessus, parce que
le
respect que je lui dois, il se trompe. En 2019, la production est équivalente à celle de 2018, elle est même légèrement supérieure, très légèrement supérieure, mais il y a un plafond. Disons qu'il y a, il y a un plafond qui est atteint en 2018. C'est très difficile de conclure sur le fait qu'on aurait franchi un pic à cause de la crise du Covid. En fait. C'est-à-dire que la crise du Covid, c'est un choc sur l'offre, sur la demande, pardon. Donc, on est dans une phase de récession brutale qui contraint la demande. Donc, c'est très difficile.
C'est aussi un choc sur l'offre parce que le prix est tombé tellement bas, 40 dollars environ, que les pétroles de schiste ne sont-ils pas… C'est une question que je vous pose, hein, je n'ai pas de prétention. Les pétroles de schiste ne sont-ils pas en train de s'effondrer? Alors que dans la conférence que vous avez faite il y a un an, vous, en citant l'AIE, hein, vous ne faisiez que citer l'AIE, vous disiez que l'AIE, pour la première fois de son existence, envisageait un oil crunch, alors même qu'elle tablait sur un doublement de la production de pétrole de schiste, ce qui est une gageure aujourd'hui avec un dollar, oui. Avec un baril à 40 dollars.
Absolument.
Et vous évoquez aussi
l'énorme
dette financière. Et je crois même que vous parliez de pyramide de Ponzi. Hein, si je crois
oui.
Que c'est. Et donc, encore une fois, moi, je n'ai aucune prétention. Je souhaite simplement vous poser les bonnes questions. Voilà.
Oui, oui. Donc, reprenons un peu tout ça. Je disais, donc, 2008, le pétrole conventionnel atteint un plafond. Ce qui a permis de continuer à augmenter la production mondiale, ce sont les pétroles dits non conventionnels et principalement le pétrole de schiste aux États-Unis. Pourquoi j'évoque une pyramide de Ponzi ou en tout cas quelque chose qui est analogue, c'est que la grande majorité des producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis, donc c'est un phénomène qui est quasiment strictement américain, n'ont jamais gagné d'argent. C'est-à-dire qu'ils ils sont à ce qu'on appelle un cash flow net négatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leurs investissements, eh bien, ils sont dans le rouge et ils sont parvenus à ne pas mettre la clé sous la porte en convainquant des gens de leur prêter de l'argent ou d'acheter leurs actions. Donc, c'est un business qui, depuis le début de son essor, justement au lendemain de la crise de 2008, pour la plupart des opérateurs, n'a jamais généré un cash flow, un flux de trésorerie positif. Ça, c'est un premier point. Là-dessus, la crise du Covid a ajouté un certain nombre de banderies dans le corps de ce taureau qui n'était pas déjà en grande forme, sachant que depuis 2017, c'était de plus en plus compliqué pour ces opérateurs de pétrole de schiste de lever de l'argent, tout simplement parce qu'à Wall Street ou dans le Wall Street Journal, on disait bah, « D'accord, mais enfin, à un moment donné, il va falloir distribuer des dividendes et peut-être calmer le jeu sur le développement de la production. » Donc, de fait, l'AIE nous dit, si on veut continuer à développer la production mondiale de pétrole et éviter une contraction de l'offre subie, non pas voulue à cause des politiques climatiques, mais vraiment subie, un choc côté offre, eh bien, il faudrait que les pétroles non conventionnels, le pétrole de schiste en particulier, continuent un essor qui, comme vous l'avez dit, devrait être un essor absolument spectaculaire. C'est compliqué, disons que c'est une hypothèse audacieuse d'estimer que ce pétrole non conventionnel, et en particulier le pétrole de schiste, va pouvoir continuer à se développer du fait des niveaux d'endettement dans cette activité qui sont en plus aggravés par la crise du Covid, si vous voulez, c'est une hibernation. Tous les pétroliers ont mis leur politique d'investissement très largement en hibernation.
Non seulement, mais on voit d'ailleurs sur le graphique de Jean Laherrer que l'exploration est très faible. Mais aussi, je crois que la moitié des compagnies de pétrole de Rochemer ont fait faillite, notamment Chesapeake, qui était la deuxième. Et je crois, sous votre contrôle, je crois savoir que 20 ou 30 compagnies ont fait faillite. Donc,
oui, il y a un très grand nombre d'opérateurs qui ont fait faillite.
On est dans une
faillite. Oui, mais ça, ce qui est symptomatique, c'est que la vague de faillite est antérieure en fait, à la crise du Covid, largement antérieure. En fait, elle remonte au premier effondrement des cours qui date de 2015. Ils se sont un petit peu refait la cerise dans les années 2016-2017, mais à partir de 2018, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lever de l'argent frais. Donc, une activité qui est structurellement déficitaire, quand elle ne lève plus d'argent, bah, elle se casse la figure. Et là, c'est
Alors,
clair qu'avec la crise du Covid, ça devient très compliqué.
quand on regarde les courbes, la courbe du PIB, qui est un indicateur qui n'est pas certainement le meilleur, mais bon, pour l'instant, on n'a que celui-là, et la courbe d'extraction du pétrole, on voit que depuis des années, elles sont strictement parallèles. Donc, si on a moins de pétrole, moins d'extraction de pétrole, ça veut dire que l'on va vivre certainement beaucoup plus mal.
Beaucoup plus mal, je ne sais pas, mais en tout cas, l'indicateur PIB, c'est clair que, disons pour le dire vite, nous, on ne croit pas beaucoup à la croissance verte. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'on peut identifier historiquement, depuis l'ère industrielle, une telle imbrication, une telle proportionnalité entre croissance économique d'une part et croissance de la consommation d'énergie, et on comprend bien pourquoi si on comprend que l'activité économique croissante, c'est une effectuation croissante d'une puissance. Déplacer des trucs, fabriquer des machins, etc. Donc, c'est nécessairement des besoins d'énergie à proportion, à peu près. Donc, vivre moins bien, j'en sais rien. Vivre différemment, très certainement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait au Shift, c'est pas mettre en terre la société technique et se dire, bon, ben voilà, on est voué à l'effondrement. Moi, je suis père de deux enfants, j'ai pas envie de me résoudre à ça du tout. Je pense qu'on a des outils techniques. Qu'on a appris à utiliser dans un certain contexte, qui était un contexte de profusion énergétique, il faut maintenant qu'on apprenne à les utiliser pour déplacer, produire, consommer, jouir du progrès de manière générale, dans une organisation qui soit bien plus sobre. Et c'est ça qu'on essaie d'explorer au Shift. Bien plus sobre, degré ou de force. Degré, on n'a pas parlé jusqu'à présent à cause du réchauffement climatique, qui impose de chanter nos usages fortement, très fortement et de manière systématique, nos usages d'énergie fossile, émettrice de CO2, de degré, pour éviter un mandat de degré, pardon pour le mauvais calembour, ou de force, parce que si on ne le fait pas pour le climat, on sera rattrapé par des contraintes sur les approvisionnements de pétrole. Donc ça veut pas dire retourner à la lampe à huile, puisque pour la plaisanterie, j'ai dit que la lampe à huile, c'était une lampe à pétrole, de fait. Donc moi, j'aime pas trop les gens qui caricaturent comme notre
Les
président de la
Amish,
République
vous
l'a fait
pensez aux
récemment.
Amish, oui, par exemple.
Ouais, alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les Amish, mais je pense pas que nos concitoyens, et peut-être même pas moi, seraient capables, hic et nunc, de vivre comme des Amish. Je pense, par contre, que on est capable d'organiser nos systèmes vitaux, nos systèmes techniques vitaux de transport, d'alimentation, de production, de consommation, de façon à ce qu'ils soient beaucoup, beaucoup plus sobres pour faire qu'on ait un système de santé performant, par exemple, c'est pas anodin aujourd'hui, pour faire qu'on ait des systèmes d'organisation culturelle performants, généreux. Système éducatif, etc. Tout ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de matériaux. Pour nous, avant de prononcer l'arrêt de mort de la société technique développée, on peut réfléchir à l'organisation de ces systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, dépendre tributaires d'un approvisionnement extrêmement important en pétrole. L'Union européenne, par exemple, est le premier importateur mondial de pétrole, alors que du pétrole, on n'en a plus guère et depuis longtemps. On peut réfléchir à l'organisation de ces systèmes de manière différente. On a déjà vécu et subi, et non anticipé ou anticipé très mal, la fin d'une énergie en Europe, c'est celle du charbon. Quelque part, malheureusement, à Forbach ou à Béthune, on ne s'est jamais vraiment relevé de la fin subie du charbon. Mais peut-être parce qu'on a mal travaillé. Peut-être parce que les crânes neufs qui sont les prédécesseurs du Shift Project ou de France Stratégie ou des gens qui ont pour métier ou qui prétendent parler de l'avenir, s'ils ne sont pas très, très bien pris.
Mais
Mais en tout
Mathieu,
cas,
pardon
ouais.
Mathieu, je vous interromps, mais ok, il faut changer nos habitudes, il faut travailler autrement, on peut le faire, mais combien de temps on a pour réaliser cette mutation qui sera extrêmement importante, parce que changer toute une société, changer des habitudes qui sont ancrées depuis des dizaines d'années, aller contre le déni, aller contre des gens qui ne voudront pas non plus évoluer, ça va être extrêmement long. Combien de temps on a avant que la dernière goutte de pétrole, si dernière goutte il y a un jour, sorte de terre? Combien a-t-on? Est-ce qu'on ne joue pas là contre la montre? Est-ce que la
partie... On a plus de temps pour ça que pour éviter un chaos climatique.
Oui.
Les engagements climatiques, c'est 5% de décroissance des émissions de CO2 par an, au moins. Et si on attend encore 10 ans, ça passe à 10%. Donc, c'est absolument irréalisable. Derrière ça, à mes yeux, il y a une voiture balai, mais c'est une voiture balai. Elle vient derrière, qui s'appelle le pic pétrolier. Les rythmes de déplétion qu'on peut anticiper sont moins violents que les rythmes nécessaires de décrue des émissions de CO2. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour le climat ou pour éviter un monde à la Mad Max, pour éviter une déplétion pétrolière, c'est un crash programme, c'est un programme de réorganisation de nos activités techniques. Et aujourd'hui, c'est très difficile de répondre à votre question. Parce que le travail n'a pas été fait. Ce travail d'élaboration d'une thérapie a été fait de manière parcellaire ou de manière hâtive ou de manière idéologique. On a très peu regardé jusqu'à présent et encore moins débattu au sein de l'Agora comment, parce que le problème est d'abord un problème pratique avant d'être un problème idéologique, le comment on fait. Or, nous, on ébauche au Shift, on fait partie des organisations qui tentent d'ébaucher une planification. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est très urgent. C'est très urgent et c'est très profond ce qu'il faut faire. Après, moi, d'abord, par complexion, je n'ai pas envie de me résoudre à la catastrophe et de dire après nous le déluge, d'une part. Mais même intellectuellement, froidement, je me dis qu'il y a pas mal de fins heureuses, d'issues heureuses, en particulier, je pense, sur nos modes de transport, qu'on peut tout à fait concevoir. En particulier au pays de Descartes.
Vous êtes optimiste ?
Je voudrais relancer une question et essayer de vous pousser un peu dans vos retranchements.
Allez-y, je vous attends.
On nous raconte une histoire à laquelle personnellement je ne crois pas, c'est que le PIB retrouverait en 2022 son niveau de 2019. Bon, je dis je n'y crois pas, la preuve c'est que ces derniers jours, les organisations internationales viennent de corriger cette histoire. Ce compte de fait, ils nous disent maintenant 2023, à cause de la deuxième vague du Covid. Ma question très précise, c'est sommes-nous capables en 2023 de produire 100 millions de barils jour? Alors, moi, j'ai un doute, mais je n'ai aucune prétention sur le sujet, parce que je n'ai pas le sentiment que les pétroles de schiste pourront challenger ce défi de produire en 2023 le même niveau que 2019. Et je vous laisse le temps de réfléchir en portant une rapide appréciation sur ce que vous venez de dire, Jacques Lavergne et vous-même, en citant Jean Covici, qui n'est pas le pape, mais malheureusement, Jean-Marc dit 5% par an de réduction des émissions, vous avez rappelé le chiffre, il disait à un journaliste suisse récemment, même si je vous accorde un point ou un point et demi d'amélioration énergétique, c'est beaucoup, hein, ça fait une récession de 3% par an. Or, le problème, c'est que nous n'osons pas, et moi le premier, je suis docteur en sciences économiques, hein, nous n'osons pas penser la décroissance. Penser la décroissance, c'est une, pour vos enfants, dont vous parliez à l'instant, c'est une réduction massive des inégalités. Nous ne pouvons pas aborder la contrainte physique de la décroissance sans changer complètement notre société. Voilà mon appréciation et je suis...
Maxime, on va laisser Mathieu répondre.
On est d'accord. On est d'accord, c'est de ça dont je parlais. C'est une réorganisation. Pour moi, j'appelle ça une réorganisation profonde de nos systèmes techniques vitaux. Oui. Le pétrole, et je répondrai à la première partie de votre question ensuite. Oui, le pétrole, c'est à la lettre, l'énergie de manière générale, c'est à la lettre le système sanguin de l'organisme, de nos organismes collectifs, avant de prononcer l'arrêt de mort de cet organisme collectif, je pense qu'on peut élaborer des méthodes thérapeutiques adéquates, en les prenant sous l'angle technique et pratique. Là-dedans, si ça fait décroître le PIB, ainsi soit-il, peu importe. Pour nous, on est parfaitement en phase avec Jean-Marc là-dessus, et au Shift, pour nous, l'essentiel, c'est d'assurer la pérennité de nos systèmes techniques vitaux pour continuer à faire société. Et si là-dedans, et c'est pour ça que typiquement, là, on est en train de travailler sur un plan de transformation de l'économie française, et dans ce plan, on ne met pas les euros en entrée de raisonnement. On regarde ce que ça fait en euros à la fin. Parce qu'on regarde les choses d'abord sous un angle, on regarde la société sous l'angle pratique le plus plat, le plus bas. C'est-à-dire, on dit, notre société, c'est des gens qui font des trucs, qui produisent, qui consomment, qui font. Et c'est des tonnes de trucs et de machins et des joules qui permettent à ces gens de faire des choses. Donc il y a une transformation, pour moi, elle n'est pas au premier ordre, elle n'est pas économique. Enfin, elle n'est pas économique, elle n'est pas monétaire. Elle
Le
n'est pas
PIB n'est pas
monétaire.
le premier indicateur.
Et donc voilà, si on pose l'évolution de notre société, si on pose le fait qu'on est confronté à une évolution inexorable, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour faire face à l'ensemble des limites physiques, il y a le pétrole, mais il y en a beaucoup d'autres, induites parfois directement de la contrainte sur le pétrole, mais pas forcément toujours. Si on considère qu'on est confronté à une évolution inexorable, alors on peut imaginer une transformation de la société pratique. Et elle n'est pas dans sa première dimension, cette transformation pratique monétaire. Elle concerne des gens, des activités, des besoins vitaux et des organisations techniques pour mobiliser ces trucs. Et pour répondre à la première partie de votre question, eh bien, je répondrai de manière lapidaire. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, la voiture balai, je disais tout à l'heure, cette contrainte sur les approvisionnements pétroliers potentiels, c'est une voiture balai des politiques climatiques. Eh bien, je pense qu'elle a accéléré cette voiture balai avec la crise du Covid. Effectivement, l'arrêt des investissements ou le gel massif des investissements pétroliers renforce l'hypothèse d'une contrainte sur les approvisionnements pétroliers à l'horizon de cette décennie.
Alors,
Merci.
nous
Sachant
allons.
qu'un aparté tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui me laisse rêveur, et vous l'avez dit avec beaucoup de franchise. Finalement, les réserves mondiales de pétrole, c'est un secret qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'on est dans les rendements décroissants, là, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'il y a du pétrole sweet, fine, light, quelque part? Vous estimez que finalement, on ne sait pas. Hein, vous avez dit que Non,
vous
non,
avez.
non, 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 c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis journaliste d'investigation. Donc, mon boulot, ma formation, j'ai commencé ma carrière au Canard Enchaîné, c'est d'aller gratter là où c'est pas forcément utile, c'est pas forcément simple d'avoir l'info au départ. Donc, du coup, cette histoire des réserves pétrolières, pour moi, c'est un jeu intellectuel passionnant. Bien sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui sait. C'est ce qu'on apprend quand on fait une journaliste d'investigation, c'est que vous allez toujours trouver quelqu'un qui sait. Donc, le grand problème avec cette question des réserves pétrolières, et je dis bien pour moi, il n'y a pas de solution de continuité entre les problématiques liées au climat et les problématiques liées aux réserves pétrolières. Il y a simplement une asymétrie d'information. L'atmosphère n'appartient à personne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail universitaire absolument transparent qui permet de comprendre ce qui se passe du côté de Charybde. Mais du côté de Scylla, c'est plus compliqué parce que. Précisément, ce n'est pas un rocher, c'est un tourbillon, si on veut pousser l'analogie jusqu'au bout entre Charybde et Scylla. Et l'état des réserves mondiales de pétrole sont, dans le cas des compagnies cotées, un secret commercial ou un secret industriel. Et dans le cas des pays de l'OPEP et de la Russie, carrément un secret d'État. Néanmoins, il existe des sociétés d'intelligence économique dont le métier est qui font payer ça très cher et de faire un état des lieux consolidé de l'état des réserves, mais aussi de l'état de la production, des CAPEX, enfin, de tout. Et en fait, il se trouve qu'il y en a trois dans le monde et ce sont des sociétés d'espionnage industriel mutualisé. C'est-à-dire que tous les producteurs pétroliers payent l'accès à ces bases de données pour savoir ce que font les autres. Et depuis très, très longtemps. Et nous, le Shift, on a fait notre petite. Ça faisait très longtemps que moi j'avais envie d'être petite souris et de rentrer dans ces bases d'informations. Et on en a acheté une licence cette année. Donc, on a les mêmes infos sur l'état des réserves pétrolières mondiales que l'AIE ou que Total ou que Rosneft. Et ce qu'on voit là-dedans, donc c'est l'étude qu'on a publiée au mois de juin sur le site du Shift, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Il y a un problème. D'une part, on conforte le fait que le pic du pétrole conventionnel est franchi, et pour
Oui.
d'excellentes raisons qui ont trait au déclin des découvertes depuis très longtemps de pétrole conventionnel, et qu'il y a vraisemblablement des problèmes pour pérenniser le niveau de production actuel, et problèmes qui sont particulièrement accrus pour nous, Européens, qui sommes les premiers importateurs et qui sommes cernés, littéralement entourés par des régions pétrolifères en déclin déjà. Largement amorcés, comme dans le cas de la mer du Nord ou de l'Algérie, ou qui sont sur le point d'amorcer ce déclin,
Comme la
comme la
Russie.
Russie. Et ça, vous voyez, on voit qu'il y a une raison de sécurité nationale au sens classique, outre l'environnement, le climat, qui permettent, et convergentes, qui permettent de se dire, oui, on a peut-être intérêt à apprendre à s'organiser techniquement, pratiquement, pour se passer d'urgence de pétrole. Parce que si on ne le fait pas pour le climat, on peut le faire aussi pour se dire, tiens, on pourrait éviter des guerres aussi. Ou des disruptions. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela, ou ce qui s'est passé en Syrie. Il se trouve que dans les deux cas, et on peut ajouter le Yémen, malheureusement, dans les deux cas, la guerre civile ou le chaos social dans le cas du Venezuela succède de 10 ans. L'atteinte d'un pic de la production de pétrole de ces trois pays producteurs de pétrole, qui était leur première, voire quasiment leur seule source de devises. Donc source de financement de la paix sociale, du welfare state à la Bachar el-Assad ou à la Maduro. On voit vraiment cette succession. Et en Algérie, le mouvement Irak, là, en ce moment, le mouvement de protestation sociale, je peux vous dire que pour les Algériens, pour l'Algérien moyen, le fait que la production de pétrole de l'Algérie décline, c'est très concret ce que ça veut dire. Alors, en Europe, on a évité des guerres, on ne s'est pas battu. Et la dernière fois qu'on s'est battu, il y avait quand même un sous-texte d'accès au pétrole qui était très puissant. Stalingrad, c'était pour aller à Bakou, pour accéder au pétrole soviétique. Je pense qu'on a des réveils urgents. Et je suis très content que ce travail qu'on fait sur les réserves pétrolières au Shift Project, il soit fait sous l'égide du ministère de l'Armée. Et on va publier ça en mars prochain. Il y a des enjeux de sécurité au sens classique derrière toutes ces histoires de transition énergétique.
Écoutez, tout ça est tout à fait passionnant. Je crois qu'on va arriver au bout de cet entretien parce que l'heure court très très vite. On aurait pu encore en parler des heures. Merci Mathieu Ozano de nous
Merci à
avoir
vous.
consacré du temps. Je rappelle votre livre, La grande histoire du pétrole, l'or noir de Mathieu Ozano à la découverte. Je sais que les libraires sont fermés, mais vous pouvez commander, pas chez Amazon, mais chez votre libraire, même à l'éditeur d'ailleurs. Vous êtes, pour ceux qui sont confinés, c'est vraiment une superbe lecture. Alors n'hésitez pas. D'abord, ça vous tiendra un moment. Et puis ensuite, c'est vraiment un livre extrêmement, et je ne le dis pas là parce que l'auteur est là, mais je l'ai déjà dit dans d'autres sphères, un livre extrêmement enrichissant. Merci Maxime, merci Mathieu Ozano, et puis bon vent au Shift. Et nous continuerons à suivre ces travaux et essayer modestement de les relayer sur Esprit Occitanie. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci à vous et bon vent à vous également.
C'était Résilience, une émission de Maxime Maury et Jacques Lavergne, avec à la réalisation et au montage Yanis Boudin, que nous remercions. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application Esprit Occitanie si vous possédez un smartphone. À bientôt pour un nouveau numéro de Résilience. Belle journée à toutes et à tous.